Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, la vérité qui rend libre.
De notre Bible, si vous voulez bien. Voilà, quelques réglages techniques. Et je vous propose que nous entreprenions une réflexion sur un grand thème qui, c'est vrai, une grande préoccupation dans notre monde, ça a toujours été d'ailleurs, c'est le sujet de la liberté. Alors il y a un passage tout à fait approprié pour cela. Ça se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Et nous allons faire une simple lecture, quelques versets pour introduire notre méditation. Chapitre 8, Évangile de Jean, verset 30. Voici ce que je lis, redécouvre avec vous. Comme Jésus parlait, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu ? Vous deviendrez libre. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement, vraiment, authentiquement libre. C'est moi qui ai ajouté quelques mots supplémentaires. Voilà. Vous savez que le propos, la liberté, est le grand rêve de tous les temps et pour tous les hommes. Nous vivons dans un monde qui nous informe, ici ou là, malheureusement, de tous ces peuples, toutes ces nations qui souffrent sous un joug ou un autre. Et c'est vrai que pour nous, les Occidentaux, ça nous fait peine à voir la privation ou la confiscation de la liberté. Alors, on fait grand bruit aujourd'hui, à juste titre, de la condition de la femme dans certaines contrées de notre monde. Et on s'émeut naturellement de voir que finalement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes qui sont en souffrance, aspirant au fond de leur cœur à la liberté. Dans le monde social, c'est pareil. Il y a des gens qui, pour un salaire de misère, sont véritablement réduits à l'esclavage. Alors, ce sont des choses, c'est vrai, que nous connaissons, que nous partageons. Et dans notre récit, Jésus pose, à vrai dire, les bases de la vraie liberté. Il va parler de telle manière, il va avancer une conception de la liberté que trop souvent l'homme oublie, ou tout simplement qu'il ne veut pas se souvenir. Parce que quand on est dominant, eh bien, c'est un état qui finalement peut avoir certaines prérogatives, mais qui dit dominant, c'est qu'il y a aussi des dominés. Et si l'on pose la même question en ce sujet sur la liberté, vous verrez que les réponses seront diamétralement opposées, naturellement. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on est dans une position de force, d'une grande liberté où nous avons eh bien, beaucoup de latitude à faire valoir, alors évidemment, on n'a pas trop intérêt à ce que ça bouge. Mais Jésus a fait bouger les frontières, parce qu'il nous parle de la liberté. Et il n'en parle comme nul autre n'a pu en parler avant lui et n'en parlera après lui. Alors il dit ceci, et c'est important, vous connaîtrez la liberté avec ce fruit, avec cette grâce, cette bénédiction, et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité que je vous annonce, celle-ci, eh bien, vous donnera la vraie liberté. Elle va vous amener dans un monde qui sera l'affranchissement. Vous serez des affranchis, affranchis des hommes, affranchis du quand dira-t-on, affranchis de toutes sortes de choses, traditions ou convenances, les us et coutumes, vous serez affranchis réellement libres. On sait que tout le monde aspire à la liberté, mais tout le monde n'a pas envie de la vérité. C'est bien ce que Jésus nous laisse entendre. Oui, la liberté. Vous savez, hier encore, dans cette semaine, dans les jours qui ont passé, on a parlé là, on a parlé dans les rues, on a manifesté avec véhémence. Hein, c'est vrai. Alors on parle de liberté, on veut être encore plus libre que l'on l'est aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'est que les hommes sont très, très friands de cette liberté, mais Jésus lui dit, nous, que pour véritablement atteindre cette liberté, il faut entendre la vérité, et pas n'importe laquelle, c'est la sienne. Écoutez, Jésus est bien placé puisqu'il nous se propose. Il personnifie la vérité puisqu'il nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vie et la vérité, ça va ensemble. Parce qu'il n'y a pas de vie réelle, de vie libre s'il n'y a pas la vérité. Alors, Jésus lit ces deux principes ensemble. Le principe de la liberté et celui de la vérité. La liberté étant la conséquence heureuse de la vérité. Je dis ça avec mes mots, mais me semble-t-il que c'est ce que j'ai compris en lisant la Bible et ce texte que nous méditons ce matin. Je parle bien de résultats ou de conséquences heureuses de la vérité. Et ça, il faut bien comprendre. Parce que Jésus va nous laisser. Les contemporains du Seigneur désiraient ardemment la liberté, mais ils ne la voyaient que sous un aspect, la liberté nationale, la liberté du peuple juif, sous la botte de l'occupant romain, comme cela a été le cas dans bien des siècles, dans notre pays encore récemment, de l'occupation d'une force, d'une armée étrangère. Alors ils ne voyaient que cela. Et le problème, c'est qu'ils niaient. Ils niaient la réalité de leur servitude du moment. Ils se disaient, nous sommes juifs, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons une nation puissante, nous avons un Dieu puissant. Mais ce qu'ils oubliaient, enfin, ils feignaient d'oublier, c'est qu'il y avait quand même un empire sur eux, l'empire romain, l'empereur à Rome. Et ils disaient, nous sommes libres quand même, nous sommes quand même libres. Et ce qui les faisait prétendre à cette liberté illusoire, c'était tout simplement l'orgueil. Ouais. Ils ne voulaient pas accepter, finalement, qu'il y avait des troupes qui occupaient tout leur pays, et ils disaient, bien nous sommes libres. Écoutez, quand Jésus leur parle et leur dit ces choses que nous sommes en train de méditer, il nous est dit que les Juifs lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Quelle fierté, quel orgueil, légitime en soi. Mais s'ils étaient restés dans la foi, s'ils étaient restés dans la dépendance de Dieu, ils n'auraient pas eu l'occupant romain chez eux. C'est ça le problème, et on va venir au fond de ce qui fait que les hommes sont captifs. Ils sont emprisonnés. Alors ils diront, mais nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Alors là, ils avaient vraiment la mémoire courte, parce que c'était quand même oublié très facilement qu'ils avaient passé quand même 430 ans d'esclavage et de servitude dans ce pays, dans cet empire d'Égypte, et qu'ils avaient fait quand même 70 ans à Babylone. Mais ça, ils l'avaient oublié. Alors, ils vont interpeller Jésus, ils vont lui dire tout simplement, mais comment dis-tu, vous deviendrez libre? C'est une véritable question. Aujourd'hui, si nous posons la même question, la même interrogation à nos contemporains, ils vous diront, mais nous sommes un peuple libre. Nous sommes véritablement une nation libre, nous sommes la nation des droits de l'homme. Alors, s'il n'y en a plus libre que nous, on ne comprend pas. Hein? Nous sommes réellement libres. Et quand vous regardez les gens, quand vous parlez avec les gens, quand vous rentrez un petit peu dans le détail, s'ils le permettent de leur vie, vous allez voir que nous sommes dans un monde où les gens n'ont jamais été autant accablés, autant écrasés, autant surchargés, autant tracassés, autant préoccupés par mille et une choses. L'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre. Comment deviendrez-vous? Comment devenir libre? Alors quand il s'agit de révéler à nos semblables leur misère et leur esclavage de toute nature, eh bien, ils supportent difficilement d'entendre la vérité. Et la vérité, Jésus la donne. Il la donne non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous contrarier, mais il la donne. Il la donne parce qu'il y a quelque chose qui va être touché au plus profond de nous-mêmes. C'est parfois notre amour propre. C'est parfois toute une histoire qui nous est personnelle. Et il faut quelquefois baisser le niveau. Nous l'avons entendu à travers ce don spirituel il y a un instant. Tu es mon peuple, mais marche avec moi avec modestie et humilité. Ouais. Il me semble qu'on a entendu la même chose, si j'ai bien compris. Alors, le peuple juif, c'était ça son gros problème. L'orgueil. L'orgueil d'être. L'orgueil de spirituel, l'orgueil religieux, tout ce qu'ils pouvaient lire. Alors ils se disaient, ben oui, il y a peut-être les Romains, mais quand même, néanmoins, tout ça, ça ne compte pas. Et pourtant, c'est quand même par ce chemin-là, j'entends la vérité à accepter, que se trouve le véritable affranchissement. Jésus nous le dit en des mots très forts, des lettres de feu, il dira, la vérité vous affranchira. En d'autres termes, je paraphrase, mais la vérité qui vient de ma bouche, qui vient de moi, qui est issue de l'Évangile, ce qui est une bonne nouvelle, eh bien, cette vérité vous affranchira, elle vous libérera. Et on peut avoir toutes les armées romaines et autres, on peut avoir un pays occupé, et dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre âme, on peut être libre. C'est ça ce que Jésus dit. Elle vous affranchira, aucun homme ne pourra mettre la main sur vous. Il n'y aura plus de fer, il n'y aura plus de liens, il n'y aura plus de contraintes. Vous aurez, et vous connaîtrez, et vous rentrerez dans un royaume de liberté, dans une autre dimension. La notion de liberté englobe plusieurs aspects de la vie des hommes. Pour la plupart, c'est avant tout et d'abord, c'est la première réaction, une liberté extérieure. Celle qui se voit. Je peux boire, je peux fumer, je peux faire ceci, je peux faire cela, ça se voit. Quoiqu'elle se restreint même encore aujourd'hui dans la vie publique. De plus en plus, pour de bonnes raisons. Quand on sait les dégâts que tout cela peut occasionner. Mais bon, peu importe, c'est pas ça ce qui est important. Une liberté visible. Alors, nous, dans notre pays, il y a quelque chose, c'est notre liberté nationale. L'indépendance. Nous sommes libres, normalement, depuis le 14 juillet 1789, nous sommes des gens libres. Vraiment, Nous avons, eh bien là, secoué le joug de la tyrannie. Nous sommes un pays indépendant. C'est une liberté civile aussi que nous avons acquise. La démocratie n'est pas pour rien. Chacun peut s'exprimer, dans certaines limites naturellement, mais c'est normal. C'est notre liberté individuelle. Faire ce que l'on a envie de faire sans contrainte. Mais il y aura toujours des lois, quand même, je vous le dis. Il y aura toujours des limites. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas vivre en société sans qu'il y ait quelque part, eh bien, des garde-fous. On pourrait dire ça, c'est le mot. Je dirais peut-être des glissières de sécurité pour les autres. Mais qui dit tout cela, eh bien, c'est un privilège. Et vous savez, je crois que nous devrions être heureux et bénir le Seigneur, d'être dans un pays libre comme le nôtre. Quand on sait qu'autour de nous, il y a, je dis bien, pas des millions, mais des milliards de gens qui sont sous une férule, sous des chaînes, et qui n'ont pas le droit de penser, qui n'ont pas le droit de dire, qui n'ont pas le droit d'écrire, qui n'ont pas le droit de vivre leur foi, qui n'ont pas le droit de parler de Jésus-Christ, qui n'ont pas le droit d'avoir une Bible. Et ceci et cela, en revenant naturellement dans notre contexte chrétien. Alors, il y a un immense privilège, mais quand il y a des privilèges, il y a nécessairement des devoirs. Et c'est ce qu'on est en train de réapprendre à nos enfants en ce moment. Nos enfants de l'abondance. Nos enfants des trente glorieuses. Et aujourd'hui, d'en oublier que finalement, il y a quand même un retour, quelque part. C'est normal. Jésus suppose une autre liberté, celle-là, elle est cachée. elle est invisible, c'est une liberté intérieure. Et il la place dans un autre domaine que l'extérieur, que le visible. C'est une liberté morale, une liberté spirituelle. Si nous avons cette liberté au fond de notre cœur et de notre âme, une liberté morale, si nous avons dans notre esprit cette liberté que j'ai appelée spirituelle, mais nous sommes, les uns et les autres, nous sommes des hommes et des femmes libres. Libres. Et c'est Jésus qui nous a libérés. Si les hommes se sont battus jusqu'au sang pour acquérir cette première liberté contre les despotes et les tyrans de tout gabarit, il est certainement à rappeler à l'Église une autre conquête à entreprendre, qui est certes plus difficile, c'est une conquête qui concerne chaque individu, c'est la liberté à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a bien d'autres dangers que les canons, les fusils, et puis toutes les stratégies humaines, militaires ou autres, économiques ou politiques, idéologiques. Une autre menace, c'est quelquefois eh bien, ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Vous savez que j'aime particulièrement les proverbes. J'en ai trouvé. Hein. Alors j'aime ceux de la Bible, mais j'aime bien regarder aussi les proverbes qu'il peut y avoir autre part. C'est un proverbe qui dit ceci. La liberté, c'est l'empire que nous avons sur nous-mêmes. C'est un proverbe hollandais. Et j'ai trouvé ça bien parce que je me dis que finalement, on va la chercher ailleurs, la liberté. Mais à partir du moment où un homme est maître de lui-même, façon de parler, il a un maître, c'est le Seigneur. Mais c'est l'empire que nous avons sur nous-mêmes. Et il y en a des tempêtes, il y en a des luttes, il y en a des guerres, il y en a des dualités, il y en a des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Et quelquefois, si c'est la paix à l'extérieur, quelquefois c'est la guerre à l'intérieur. Hein. Quelquefois ça peut être le déferlement terrible à l'extérieur, mais nous sommes en paix à l'intérieur. Et ça, c'est grâce. C'est grâce, forcément, eh bien, à ce que Jésus a fait, à travailler en nous. Et c'est ce qui fait, justement, d'un homme, qu'il est un homme libre, si intérieurement les choses sont ainsi. S'il est une chose que les gens répugnent à regarder en face, c'est-à-dire, comme Jésus le souligne, c'est voir la vérité, c'est bien de reconnaître honnêtement que personne, je dis bien strictement personne, n'est vraiment libre. Ça, c'est une constatation. Quant à sa vie personnelle, est-ce que quelqu'un pourrait dire, eh bien moi, je suis vraiment un homme libre. Libre de tout, mais attention, liberté ne veut pas dire libertinage. Ne veut pas dire libéralisme à tout craint, où il n'y a plus rien. C'est de l'anarchie à ce moment-là. Non. Chaque homme est asservi par quelque chose. C'est Jésus qui nous le dit. Et il le dira particulièrement à ses détracteurs, les juifs, ses opposants. Il leur dira, vous croyez être libre? Eh bien, moi, je vous montrerai. Vous savez, quand vous lirez la suite du texte, parce que j'en ai lu une petite partie, vous verrez que Jésus fera remonter cette animation, cette illusion de liberté à celui qui a captivé le monde, l'humanité entière, non pas pour la franchir, mais pour la régenter, pour la déformer, pour eh bien, se l'approprier, pour en faire ses esclaves. Pour les soumettre à sa volonté. Vous savez de qui je veux parler. Jésus retournera la question à un moment donné parce que Jésus sent que ses détracteurs veulent le faire mourir. Et il dira, moi je vais vous dire la vérité maintenant. Ah, vous parlez comme ça. Vous dites que vous êtes libre. Vous avez ceci et cela, etc. Moi je vais vous dire que vous avez pour père le diable. Et il parlait avec des pharisiens. Il parlait à des gens de la religion juive israélite, des gens qui se réclamaient, nous sommes enfants d'Abraham, nous avons notre Père qui est dans les cieux, etc. Jésus leur dira, mais non, pas du tout, les sentiments qui sont en vous, la domination qui est en vous, vous avez pour Père le diable, et moi je vais vous dire ce qu'il est votre Père. Il est menteur, et vous avez cru à son mensonge, il est meurtrier depuis le premier jour, et vous marchez dans ses convives. Moi je vous ai dit la vérité, et vous voulez me faire mourir. C'est dans le texte. Jésus leur règle leur compte. Il leur dit, voilà les dispositions qui sont à l'intérieur de vous-même. C'est pour cela qu'ils se prétendaient être libres alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas même au regard du mal qui les dominait, de la haine, de l'aversion qu'ils avaient pour Jésus, le rejet de Jésus. Ouais. Chaque homme est dominé par quelque chose qui le domine. Ce peut être des habitudes, ce peut être des passions, ça va jusqu'au vice, ça peut aller par des addictions, toutes sortes de choses qui ne peuvent pas se passer. Alors Jésus dira la vérité. Jésus nous rappelle la vérité ce matin. Il dénoncera le mal à sa racine. Jésus n'a jamais guéri en surface. Il va au cœur. Il va véritablement là où est bien, où est puisé le mal. Alors, il le dénonce ce mal. Il dira tout haut ce que chacun pense tout bas et ne veut pas avouer. Et il va vraiment marquer les paroles par... Il va ponctuer ses paroles par quelque chose de très important que nous connaissons bien dans l'évangile de Jean. En vérité, en vérité. Attention, il y a quelque chose qui est essentiel et primordial. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché et devient et esclave du péché. Il devient dépendant. Et s'il devient dépendant, il devient prisonnier. Aujourd'hui, nous entendons par les médias toutes sortes de gens qui sont dépendants d'une chose ou d'une autre. Ah ouais, les gens sont malheureux. Et quelquefois, ils crient. Ils vont chercher, là, médecins, psychologues, psychiatres, etc., de droite et de gauche. Et ce sont des gens qui sont porteurs d'une misère, d'un malheur. Et ils ne peuvent pas s'en libérer. Alors on va leur donner peut-être des soporifiques, on va leur donner des tranquillisants, on va leur donner des anxiolytiques pour essayer de calmer cela, mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront libérés. Ils seront calmés, ils seront peut-être apaisés. Mais vous savez que le Seigneur n'est jamais venu pour faire des demi-mesures. Il n'est pas venu pour nous calmer, il est venu pour nous délivrer. Et ça, c'est autre chose. La délivrance, c'est une autre place, c'est une autre dimension. De pouvoir dire, eh bien maintenant, je suis heureux parce que vraiment, Jésus m'a libéré. Il m'a affranchi. Mais parfois, il faut en souffrir beaucoup pour désirer en sortir. Parce que tant qu'on est entre deux eaux et que l'on finit par se complaire tout en se plaignant, pour attirer parfois l'attention sur nous, mais on s'aperçoit qu'il faut véritablement le désirer. Vous savez, le fils prodigue, quand il est revenu à la maison, c'est qu'il en avait par-dessus la tête de sa dépendance, hein, de son addiction. Il a dit, maintenant, moi, je ne peux plus supporter. Ah oui, il pataugeait avec les cochons. Excusez-moi, mais c'était ça. Péché est un mot qui fait bondir. Je ne vais pas le citer et reciter, mais il doit quand même y passer, parce que Jésus en parle. Ça fait bondir l'incrédule, le mot péché. Et ça fait sourire le moqueur. Vous en êtes encore là avec votre histoire de péché? Ce mot, c'est le mot que l'on ne veut pas prononcer. C'est un mot qui est à bannir. Et pourtant, si nous voulons aller plus loin, il faut le prendre comme la Bible le dit. Voilà. Vous serez affranchi. La vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est un diagnostic, comme le médecin le fait sur une maladie, par exemple. Qu'on le veuille ou non, la misère et les souffrances humaines sont étroitement liées à un état spirituel. Ça, c'est la vérité. C'est lié au spirituel, c'est-à-dire en relation avec le monde invisible, le monde invisible de l'esprit. Nous ne sommes pas que chair, nous ne sommes pas que matière physique. Nous avons une autre dimension. Et même les gens qui ne croient pas en Dieu, ce sont des êtres tripartites, un corps, une âme, un esprit. Et même s'ils ne voient que la dimension inférieure, c'est leur corps. L'univers est régi par des lois naturelles et l'univers est régi aussi par des lois spirituelles. Tout manquement, toute infraction, et ça c'est la véritable loi divine, toute infraction, tout manquement entraîne un dérèglement. Je dis bien seulement, c'est peut-être un euphémisme ce que je suis, ça déclenche un dérèglement. C'est vrai dans notre vie de tous les jours, mais dans notre vie, notre équilibre intérieur, dans notre équilibre psychique, psychologique, tout manquement à ces règles, de cette hygiène, on pourrait dire, hygiène morale, hygiène spirituelle, hygiène même physique, parce que Dieu a fait les choses pour qu'elles soient bien faites, pour que l'homme trouve son bonheur, qu'il trouve son équilibre. La corruption de la nature humaine dont nous parle la Bible est un des principaux facteurs de la privation de liberté. D'abord sur le plan moral et sur le plan extérieur, ça se verra à un moment donné. Vous savez, il y a quelque chose dont nous devons vraiment être conscients, c'est que Dieu est un être libre. Et il nous a fait, nous en tant que créatures, des êtres libres. Au départ. Après, ça a changé. Dieu est toujours resté libre. Hein. Mais nous, on est devenus vraiment on est devenu prisonnier. Ouais. Et ça, ce n'était pas dans le pensée de Dieu, ce n'était pas dans le plan de Dieu à l'origine. Et je vais vous donner la preuve pourquoi cette grande prérogative, une des premières prérogatives dans la personnalité divine, c'est qu'il n'a pas voulu que nous soyons des robots. Il aurait pu dire « Je suis Dieu, je suis votre créateur, maintenant vous allez marcher, tout le monde derrière moi et personne ne bouge. » Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons été un moment confrontés avec ce que vous connaissez dans Genèse chapitre 3, entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, et hélas, malheureusement, c'est terrible. Mais nous avons opté pour le contraire de la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, devant les promesses fallacieuses de l'ennemi qui parlait du menteur qui nous a parlé, nous avons cru davantage au mensonge qu'à la vérité. Et quand le mensonge s'est dévoilé, nous nous sommes aperçus que c'était trop tard. C'était d'abord, non pas la vérité, mais le mensonge. Et le mensonge nous a amenés à la captivité. Je suis en train de faire un peu de logique ce matin, mais je pense que ça peut être dit de cette manière. L'esclavage a toujours existé, on le sait. Des millions et des millions d'êtres ont souffert dans des chaînes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, plus que jamais, les chaînes ne sont plus aux pieds ou aux mains des hommes, mais dans les cœurs et dans les esprits. Et faisons attention, mais dans le développement de notre société d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, nous sommes déjà dedans. Pour nous, pour notre jeunesse, pour nos enfants, un grand danger. C'est cet emprisonnement des cœurs, des sentiments, de l'affect, du raisonnement, l'intelligence, de l'esprit. Et là, on va voir ce qu'il y a de terrible, ce qu'il y a de dramatique pour les temps qui arrivent, à travers notre société moderne, à travers la technologie, l'ultra-technologie d'aujourd'hui. Et il faut bien y réfléchir. Un monde qui secoue ses fers extérieurs, mais qui s'aliène toujours davantage moralement. Et il y en a de la pollution autour de nous. Et on n'a pas besoin de la chercher, elle est là. Vous savez, on fait grand bruit de l'écologie, de la pollution. Et moi, quand j'entends, et c'est vrai, je souscris, je ne veux pas être naturellement dire le contraire, je souscris quand on fait tout ce bruit pour toutes ces choses extérieures, dans le ciel, dans la mer, enfin les eaux, la terre et tout ce que vous voudrez. Et je me dis, mais on ne prend aucun compte, on ne tient aucun compte de cette pollution qu'il y a et qui pénètre invisible, subtile, qui va détruire finalement l'humanité. Parce que ça commencera comme ça. C'est vrai que c'est pas très agréable de sentir des gaz d'échappement, mais il y a d'autres gaz d'échappement. Vous savez, vous comprenez, hein ? Par la tête, par l'intelligence, par le raisonnement, par toutes sortes de choses, qui amènent la mort, qui amènent la révolte, qui amènent finalement le conflit, la querelle, l'agressivité, toutes sortes de choses. Et c'est la société dans laquelle on est aujourd'hui. Le témoin d'alarme qui nous en apporte la preuve, c'est que toujours plus de gens souffrent. Ils se disent libres extérieurement, mais ils souffrent de plus en plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Tous ces gens qui vivent la dépression, tous ces gens qui vivent des angoisses, des anxiétés. Vous savez que notre pays bat des records, deuxième pays au monde pour tout ce qui est tranquillisant et antidépresseur. Et c'est terrible une chose pareille. Et on l'entend tous les jours. Un mal moderne que rien jusqu'à maintenant ne peut enrayer. On ne peut que calmer peut-être, mais on ne peut pas. Et le résultat, on le voit plus que jamais. Et ça, c'est quelque chose d'assez effrayant parce que le fait du suicide... C'est tellement répandu. Hein. Et attendez, quelquefois, on parlait de gens qui ne voulaient plus vivre parce qu'ils étaient arrivés dans certaines, au terme de leur vie ou peut-être avec des souffrances de maladie ou autre chose. Et maintenant, ce sont des enfants qui se suicident. On entend quelquefois certaines choses, on se dit, mais c'est horrible. Des enfants, vous en êtes compte ? Terrible. Comme hier, pour les peuples esclaves, un mot redoutable se fait entendre, c'est le mot « oppression ». Le mot « oppression ». Alors, c'est vraiment le cri du cœur. Mais qui délivrera ? Qui soulagera ? Et à quand la liberté ? À quand la liberté ? Écoutez, vous avez un écho qui vient d'un autre passage de la Bible, et c'est Jésus qui se donne finalement, tout simplement cette parole, qui nous donne cette parole. Il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et dans cette bonne nouvelle, il y a un point central, il y a quelque chose qui est très fort. Il annonce la liberté dans cette bonne nouvelle et il y a là, il annonce la vérité, mais au cœur de cette vérité, il y a la liberté. Écoutez bien, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, les aveugles recouvrement de la vue, et pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre, ce mot il est magnifique. Renvoyer libre. Seigneur, je suis venu vers toi, j'étais perclus de toutes sortes de problèmes, de difficultés. Et quand j'ai entendu ta parole qui est la vérité, eh bien elle m'a conduit à la liberté. Je suis devenu un homme nouveau, changé, complètement transformé. C'est voilà l'œuvre que le Seigneur a faite. Et vivre libre, c'est vivre en paix, c'est vivre dans le repos au plus profond de moi-même et non la guerre. Le monde est un perpétuel conflit à l'extérieur. Et un chrétien doit être un homme de paix, un homme qui a accepté cette paix divine. Jésus est le prince de la paix. Et la paix favorise la liberté. Et la liberté va forcément amener la paix et vivre libre. Quiconque se livre au mal, dit Jésus, devient esclave. Très rapidement, avant de terminer, j'aimerais que nous examinions tout simplement dans l'histoire biblique. On va faire un survol rapide à la fois comment les hommes ont perdu leur liberté alors que d'autres, l'ayant perdu, l'ont retrouvé. Il faut voir les deux aspects naturellement. Le premier aspect, c'est le choix de la liberté. Et ça commence dans le Jardin d'Éden, où il est dit ceci, que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il avait fait, était très bon. Le choix de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on pourrait se poser la question, mais si Dieu a dit, pour notre bien, pourquoi les hommes sont-ils allés chercher ailleurs? Et pourquoi, quand vous avez, et ça c'est inné même chez l'enfant, quand on lui donne quelque chose de bon, il a toujours envie de gratter un peu vers ce qui est mauvais? Non mais c'est vrai. Pourquoi chercher ailleurs? Ça s'appelle, d'un mot que nous connaissons bien, ça s'appelle la convoitise. Ouais, convoitise de l'argent, convoitise de l'honneur, convoitise de la réputation, convoitise de ceci et cela. Et ça rend les gens fous naturellement. L'affranchissement truqué. Et s'il y en a un qui a bien réussi son coup, c'est celui qui est au-dessus. Le marionnettiste, et il sait très bien faire fonctionner ce qu'on appelle le miroir aux alouettes. C'est l'ouverture de la chasse en ce moment. Hein. Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Faisons attention. Eh bien c'est ça, le choix de la liberté. Et ce choix, nous l'avons passé. Nous l'avons raté, ce choix. Et maintenant, il faut le reconquérir. Un peu plus loin, dans le livre de la Genèse, il nous est parlé aussi, après le choix de la liberté, il nous est parlé de la folie de la liberté. C'est l'histoire de Babel. Ah oui. Les hommes s'étaient rassemblés dans la plaine de Shinéar. Et ils se sont dit avec beaucoup d'arrogance, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour qui touchent le ciel et faisons-nous un nom. » Ah, la folie de la liberté. Ils pensaient être libres. Ils pensaient être finalement eh bien, affranchis de tout pour pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que ça, pour nous rappeler que la folie de la liberté nous amène à l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel et l'homme construit un monde sans Dieu. Il est en train encore d'entasser, après l'histoire de Babel, qui est une histoire très 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 ancienne, nous construisons encore des briques. On n'a jamais arrêté les constructions, hein, de toutes sortes. Et on s'imagine que nous allons faire un monde meilleur, un monde nouveau, toujours nouveau naturellement pour celui qui vient. Un monde qui veut qu'il soit de plus en plus humain et fraternel, et on s'aperçoit qu'il devient de plus en plus inhumain, et qu'il devient toujours conflictuel avec nos voisins. Problèmes raciaux, la xénophobie et tout le reste. Voilà ce que construit Babel. Ça, c'est la folie de la liberté. Parce que si on ne construit pas avec le Seigneur, eh bien ça ne tiendra jamais. Le résultat, c'est que nous finissons et nous finirons dans un monde, et c'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit, dans un monde infernal, impitoyable, et de plus en plus, et de plus en plus égoïste. Alors à ce moment-là, l'homme deviendra un dominateur. Il deviendra le dominateur de son frère, de son semblable. Après le choix de la liberté, la folie de la liberté, parlons de la liberté des naturels. Et elle nous est donnée toujours à travers le livre de la Genèse, parce que c'est un livre qui concentre dès l'origine, dès les premières pages de la Bible, tout ce que sera ensuite les générations et les hommes jusqu'à nous. Alors, la folie de la liberté dénaturée, elle nous est donnée sous l'image de Sodome et Gomorre. Dieu a fait des bonnes choses. Dieu a fait des bonnes choses pour que nous le bénissions. Il a fait de bonnes choses dans la nature pour que nous le bénissions. Il a donné un fonctionnement pour que l'homme puisse s'épanouir. N'allons pas dire ce qui est bien que c'est mal. N'allons pas le dire parce que Dieu a fait les choses ainsi. Bénissons-le. Mais Sodome et Gomorre présentent quelque chose de particulier, puisqu'il y a une parole contre Sodome et Gomorre. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Ça, c'était très vieux. Mais aujourd'hui, nous pourrions dire, mais le péché de notre temps, le monde de notre temps, sa conception, sa philosophie, son illusion, son athéisme, eh bien, est énorme. C'est quand la liberté n'a plus de limite. Et on se demande, la liberté que nous avons aujourd'hui dans nos pays occidentaux aura-t-elle des limites? Quelquefois, on est effrayé de voir et d'entendre certaines choses. Moi, je ne sais pas comment vous vivez les choses. Mais on se dit, ça vous fait dresser les oreilles sur la tête. Enfin, ils sont toujours là. Quoi qu'il en soit. Mais, non, pas les oreilles, les cheveux. Je suis trompé. Oui, bon, d'accord. Oui, oui. Je savais bien qu'il manquait quelque chose. Voilà. La liberté, quand elle n'a plus de limites, dans une société permissive et laxiste, ça amène la violence, ça amène le crime, ça amène l'irrespect du bien d'autrui, ça amène la débauche, ça amène toutes sortes de choses contre nature. Et on finit par dire, mais c'est normal et naturel. Oui, c'est normal et naturel quand il n'y a plus de notions, quand il n'y a plus de valeurs, quand il n'y a plus de morale, quand il n'y a plus de fondement spirituel. Vous savez, ça augure la fin de notre civilisation. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. À un moment ou à un autre, ça s'écroule. Voilà. Il y a l'appel de la liberté ensuite. Cet appel de la liberté, elle concerne un grand homme que nous connaissons. Il porte le nom d'Abraham. Écoutez bien ce que Dieu dit. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te dirai. » Et ce pays a été appelé le pays où coule le lait et le miel. Le projet de Dieu était un bon projet, formidable. La liberté qui conduit à la connaissance unique, du Dieu unique et du Dieu véritable. Il est parti d'une nation qui était la Chaldée, et c'était un pays d'idoles, c'était un pays qui était infecté de spiritisme, de magie, de religion humaine, d'idolâtrie, de superstition. Et Dieu lui dit à un moment donné, « Va-t'en !» Tu quittes, tu ne restes pas, parce que tu vas t'asphyxier. Il lui dit, voilà, tu quittes ton pays, tu t'en vas. Parce que Dieu voulait l'affranchissement de la conscience d'Abraham. Et derrière Abraham, c'était des peuples, parce qu'il a été le père des nations. C'était déjà, en quelque sorte, l'évangile avant l'évangile, pour amener tous les hommes à grandir dans la connaissance et la rencontre avec Dieu. Va-t'en, tu quittes. Ça, c'est l'appel de la liberté. Et cet appel de la liberté, il demeure dans chacun des hommes et des femmes qui existent aujourd'hui. La liberté convoitée, c'est notre histoire de Jacob. Quand il dira à la fin de sa vie, vous savez qu'il était tout jeune quand il est mort, il avait 127 ans. Alors imaginez-vous, là, on a déjà du déficit, je peux vous dire que là, ça, c'est pas possible. Le bilan, il le dira devant Pharaon, il dira, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ça, c'est Jacob. Mais Jacob illustre bien la liberté convoitée. Parce que c'était un aventurier. Mais un aventurier qui voulait marcher à côté de Dieu. Il voulait bien que Dieu soit à côté de lui, mais il ne voulait pas que Dieu soit en lui, Jacob. Ça, il parlera toujours des dieux de ses pères et tout ça, mais jamais de son Dieu à lui. Alors, il a commis des erreurs. Est-ce qu'on pourrait dire des erreurs de jeunesse? Mais il avait une frénésie, une soif de liberté pour acquérir ceci et cela. Et nous voyons que cette liberté, il a été la chercher. C'est un peu l'image du fils prodigue, Jacob. Et il va finir dans une vie de médiocrité. Parce qu'il a tout voulu, il a tout convoité. Il s'est approprié même au prix du mensonge et de tromper ses frères, de tromper tous les gens qui étaient autour de lui. Et quand il a obtenu, vous savez, tout ce qu'il voulait, il s'est dit, ce n'est que ça. Elle était profondément malheureuse. Et ça, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui sont avides de convoitise, et tous ceux qui disent « je m'enrichirai, je ferai ceci, je ferai cela, etc. » Dieu risque de vous le donner à un moment donné. Et oui, il ne va pas vous en priver. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver devant un misérable plat de lentilles qui n'a plus de goût. Vous savez, quand on a goûté à tout, on ne veut plus rien. Ce que Dieu nous donne, il nous le donne parce que c'est bon, parce que c'est suave, et ça nous construit, c'est délicieux. Mais là, Jacob, ça ne l'a pas construit, ça l'a démoli. C'est pourquoi à la fin de sa vie, il est mort avec le dépit dans son âme. La convoitise de la liberté. Il s'est dit, à moi la vie. Oui, ben, il l'a eu. Et ce n'était pas la vie que Dieu voulait lui donner. Le prix maintenant de la liberté rapidement. Ça, c'est l'histoire des Hébreux en Égypte. 430 ans d'esclavage, nous rapportent les textes. Et nous voyons qu'il y a... Dieu était bon avec ce peuple qui était esclave. Parce qu'il a marqué la sortie, la libération, par des miracles. Les miracles de la libération. Vous savez, à travers la mer Rouge, à travers les 10 plaies et tout cela. Ça pour nous montrer que Dieu est un grand Dieu. Lorsque, véritablement, nous souscrivons à son appel pour que nous soyons libres, il est capable de faire des miracles dans notre vie. Il est capable d'ouvrir les mers rouges. Pour certains d'entre nous, ce sont peut-être des addictions, ce sont peut-être des passions, ce sont peut-être des choses sur lesquelles nous nous battons depuis des années, et nous disons, mais Seigneur, j'y arriverai jamais. Eh bien, le Seigneur est capable de faire des miracles, et moi je crois encore aux miracles. Le Seigneur est capable de nous affranchir, il ne faut pas baisser les bras, et ne nous laissez pas atteindre par l'ennemi qui dit, eh bien, tu resteras toujours en Égypte, tu ne seras jamais libéré. C'est faux. C'est complètement faux. Ensuite, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés à une autre phase. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la liberté. C'est le désert. 40 ans de préparation pour rentrer dans la terre promise. C'est long, 40 ans. Hein? Alors, je ne voudrais pas vous décourager, parce que des fois, vous êtes avec un problème, vous dites, ah Seigneur, si je dois attendre 40 ans, moi qui en ai déjà 60. Enfin, c'est l'école de la discipline, et on passe par là, parce que Dieu va nous éduquer. Il va nous apprendre à rentrer dans la liberté et à bien la gérer. J'ai eu l'occasion de dire à une personne que je suivais il y a un certain temps, qui était toujours très, très, très enchaînée avec toutes sortes de problèmes et tout cela, et un jour elle est passée par la phase de la liberté, vraiment, un affranchissement. Elle est rentrée dans une nouvelle dimension spirituelle. C'est formidable, on était contents, et on est toujours contents pour elle, naturellement, parce qu'on la connaît bien. Et je lui ai dit, tu sais, tu as souffert pendant des mois et des années, mais maintenant le danger va être encore plus grand. Qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Vous savez, quand il y a eu la libération en 1944, les gens faisaient n'importe quoi, la libération, ils étaient tellement contents. Vous savez, ils se... toutes sortes de choses. Voilà. Hein? Et quand on a été opprimé pendant un certain temps, et que là on rentre dans une phase de liberté, c'est plus difficile à gérer une nouvelle liberté. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à ce moment-là. L'usage de la liberté. Vous voyez, je vous ai présenté les choses de cette manière. La liberté, le prix de la liberté, l'apprentissage de la liberté, l'usage de la liberté. Parce que la bénédiction de Dieu se garde. Quand on est libre, il faut rester libre. Il y en a toujours un qui va être pour nous reprendre. Il nous est dit que, en ce temps-là, vous reconnaîtrez le livre des juges, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et pourtant, le peuple était libre, enfin, façon de parler, enfin, c'est pensé qu'il était libre. Ça, c'est l'anarchie des temps des juges. Parce qu'on devient très facilement tout à nouveau captif, à travers l'idolâtrie, l'oubli de Dieu, la décadence morale et spirituelle. Et Israël avait fini par être vaincu tout à nouveau par ses ennemis. Ils étaient tombés tout à nouveau dans la faiblesse. Et qui dit faiblesse, la misère. Les châtiments de la liberté, c'est la captivité à Babylone. 70 ans, j'en ai parlé tout à l'heure, des grands prophètes se sont élevés pour prévenir et pour gérer après cette période qui était une période terrible, mais une période d'école. C'est Ésaïe, c'est Ézéchiel, c'est également Jérémie. Et il y a eu cette déportation et cette extermination. Ça a été le châtiment, justement, d'une liberté qui n'a pas été gérée. Et on sait qu'ils en sont sortis purifiés après. Il n'y a plus eu d'idolâtrie dans le peuple juif. Ils ont été nettoyés. Puis je termine. Jésus, c'est lui qui est le parfait libérateur, le vrai libérateur. Il nous est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, les enseignements de la vraie liberté, nous avons des preuves, et je voudrais simplement les rappeler, à travers simplement ce que nous connaissons de l'Évangile. Jésus est le libérateur des corps. Il est celui qui guérit divinement ceux qui souffrent. Ça, c'est tout l'Évangile. J'ajouterai à cela que Jésus est le véritable libérateur des âmes. Il est capable de nous, de nous délivrer de toutes ces choses qui nous enferment, qui nous captivent, qui nous attristent, qui nous donnent et qui nous mettent dans un état qui est un état de cœur ou un état d'esprit ou un état d'âme où nous ne sommes pas heureux. Jésus est le libérateur sur le plan moral. Il nous délivre de nos péchés. Il nous délivre du péché. Il nous délivre de nos faiblesses. Il est donc en ce sens le libérateur moral. Il est le libérateur spirituel parce que nous savons qu'il est venu pour dire la vérité aux hommes et il est venu dénoncer les œuvres de l'adversaire. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le savoir et il faut l'accepter. Nous ne sommes pas, il n'y a pas que Dieu au ciel et les hommes sur terre. Il y a aussi dans les lieux célestes un ennemi redoutable, un être pensant et intelligent qui veut la destruction de la créature que nous sommes, la créature de Dieu. Parce que Jésus nous dit qu'il est l'auteur de tout mal, il est l'auteur de la crainte et il l'entretient, il est l'auteur de la peur et il l'entretient, et il est aussi en finale celui qui amène la mort. Jésus est venu apporter aux hommes la juste notion de la liberté pratique au niveau de nos consciences. Il nous dit que ce n'est plus la loi et la condamnation, mais c'est la grâce et la paix. J'insiste, par la foi. Ça, c'est tout le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. On parle de liberté et on parle de vérité. La vérité qui est la nôtre en tant que chrétien, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce. C'est la parole de libération. C'est la parole de la foi qui nous donne et qui nous fait rentrer dans la faveur de Dieu. Encore une fois de plus, prophétiquement, nous l'avons entendu ce matin. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par ma faveur. Et nous pouvons bénir, nous pouvons exploser de joie que nous sommes aujourd'hui sous la faveur de Dieu. Donc la conscience, le cœur. Dieu veut nous libérer dans nos affectivités, dans nos sentiments. Parce que si nous le mettons en premier, il y aura toujours une place pour les bonnes choses. Mais il veut être en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et puis vous connaissez la suite. Il nous libère dans nos cœurs. La pensée et la conduite. Être maître de faire le bien. Combien je suis faible, je parle pour moi. Combien je suis faible. Et que parfois je succombe à faire plus facilement le mal que le bien. Oui, il faut avoir le courage de le dire. Et c'est vrai que je le reconnais. Alors Seigneur, c'est toi qui es capable, dans mes pensées, dans ma conduite, de me donner ta grâce. La liberté des autres. Et ça, nous touchons à quelque chose que Dieu veut mettre au fond de notre cœur. Parce que Dieu est amour, il veut que nous l'aimions. Il veut que nous sachions aussi aimer les autres. Ça s'appelle la tolérance, non pas la tolérance du mal, mais la tolérance de ceux qui ne pensent pas comme nous, de ceux qui sont différents, de ceux qui n'ont peut-être pas la même couleur de peau, qui n'ont peut-être pas la façon de vivre que nous avons, notre de vie et tout ça, la liberté vis-à-vis des autres. Dieu est un Dieu qui nous laisse libres, mais nous avons aussi besoin de considérer que nous ne sommes pas seuls et uniques. C'était les pharisiens qui pensaient qu'ils étaient seuls et uniques. Mais nous, nous avons des hommes, des semblables. Et si nous voulons les gagner, si nous voulons les amener à la véritable liberté, il faut savoir aller vers eux. Et leur dire que finalement Dieu les aime, et pas seulement que Dieu les aime, mais que nous pouvons aussi les aimer, et que nous voulons les aimer. Donc ça, c'est de la tolérance et de la compassion. La liberté de la foi, c'est l'épanouissement. Vous savez que Jésus nous a dit qu'il voulait que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais c'est pas de la restriction avec Dieu. Moi, il y a une des choses que j'ai apprises au fil du temps, c'est que c'est véritablement un bonheur. C'est un bonheur de connaître le Seigneur. On l'a connu jeune avec ma femme. C'est formidable qu'il nous ait cueillis quand on était, elle, enfant et moi, tout jeune homme, et d'avoir pu construire notre vie avec lui. Ouais. C'est un bonheur où il y a des moments difficiles, mais c'est un bonheur de connaître. Parce que nous avons vu combien il y avait d'abondance devant sa face. Combien il y avait d'abondance de l'intégrer dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre couple. Parce qu'il nous a promis cette abondance et c'est un épanouissement. Je crois qu'on n'est pas trop triste, ça, hein? C'est vrai? Vous êtes sincère, hein? Non, mais c'est vrai, il faut être heureux. En tous les cas, on n'a pas toujours des raisons d'être heureux. Mais il faut se dire, eh bien, avec le Seigneur, je veux être heureux parce que lui, il est capable de nous donner ces ingrédients pour être heureux. Il est capable, si je regarde aux choses négatives, je serai toujours malheureux. Mais si je regarde à lui, il est toujours positif, le Seigneur. C'est la liberté de la foi. Et tous les hommes, c'est vrai, ils sont marqués d'une manière ou d'une autre, et on est enclin au mal. Alors Jésus dira, quiconque se livre, s'abandonne, se complaît finalement au mal, devient un esclave du péché, de ce qui a dominé sur lui. La seule vraie liberté, je termine, de laquelle découlent toutes les autres, ne se trouve qu'en Jésus. Je suis la vérité. Je suis donc, par voie de conséquence, la liberté. Le seul qui soit resté indemne du péché, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous ouvre la porte aujourd'hui. Ce n'est pas par des gesticulations philosophiques, théologiques, ou d'une manière ou d'une autre que nous allons y parvenir. C'est dans la foi en Jésus-Christ, simplement. Alors, à ce moment-là, Jésus a raison de nous dire, et il peut prétendre libérer tous ceux qui sont captifs. Il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, pour vous renvoyer libres les opprimés. Ce n'est pas ce matin uniquement pour ceux qui ne sont pas là, mais c'est pour nous ce matin, les uns et les autres, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons besoin de rentrer dans une plus grande liberté, mais celle-ci passera par la porte de la vérité, quoi qu'il en soit. Vouloir la liberté, c'est être conscient de son propre esclavage pour en être libéré. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans l'Épître aux Romains, Paul nous parle de quelque chose de formidable qui nous attend. Il nous parle de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Vous connaissez ce texte ? De la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, dites-moi la suite, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que Dieu nous fasse du bien. Et nous voulons vraiment chanter eh bien, sa gloire, l'affranchissement qu'il nous donne et la vie. La vie. La vie de liberté que nous avons en lui. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, réaliser et comprendre que nous sommes tous, nous pourrions dire, logés à la même enseigne. Il n'y en a pas un plus saint que l'autre. Il n'y en a pas un qui soit plus sage que l'autre. Il n'y en a pas un qui soit plus intelligent que l'autre. Mais ta parole nous dit que tu as renfermé tous les hommes dans le péché pour faire grâce à tous. Alors, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité. Merci Jésus, parce que je m'incline devant ta majesté divine, puisque tu m'as dit que tu étais la vérité. Je te rends grâce et je te remercie parce que de cette vérité découle nécessairement, comme fruit excellent, esquis, eh bien la liberté. Seigneur, donne-nous, Père éternel, nous-mêmes, de rentrer dans une plus grande dimension de vérité, de liberté, et que cette liberté, Seigneur, nous puissions la porter, puisque nous sommes sel et lumière, sel du monde et lumière de la terre, ou sel de la terre et lumière du monde, eh bien que nous puissions la donner où il y a tant d'hommes, de femmes qui sont esclaves, qui sont là, Père éternel, profondément malheureux dans des chaînes et dans des liens. Seigneur, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que nous avons à leur apporter. Parce que nous ne dirons pas les choses parce que nous les avons apprises, mais parce que nous les aurons vécues, expérimentées en toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà.